Ancêtre de l'ère de la diffusion. Intellectra. Pour la première fois, le monde humain fut témoin de l'extinction d'une civilisation. Celui-ci comprit alors qu'il pourrait connaître d'un instant à l'autre le même destin. La fumée de la menace trisolarienne qui avait saturé le ciel terrestre pendant 3 siècles avait été balayée par les nuages. Elle avait révélé un univers encore plus cruel et implacable. La panique collective tant redoutée n'arriva pas. Devant cet anéantissement ayant eu lieu à 4 années-lumière de distance, les sociétés humaines restèrent d'un curieux mutisme. Tous paraissaient attendre, mais sans savoir ce qui était à attendre. Depuis le Grand Ravin, et bien que l'histoire ait connu d'importants virages, l'humanité avait vécu de manière générale sous des régimes démocratiques adhérents au principe de l'État-providence. Ces 2 derniers siècles, une illusion commune s'était ainsi forgée dans l'inconscient de tous les hommes. Quel que soit le degré de la catastrophe à venir, quelqu'un ou quelque chose serait toujours là pour prendre soin d'eux. Cette foi avait bien failli s'effondrer au cours du désastreux processus de migration vers l'Australie, mais voilà 6 ans, au plus fort des ténèbres, une aube miraculeuse avait quand même fini par se lever. Cette fois encore, ils attendaient un miracle. Le 3e jour après la destruction du système trisolarien, Intellectra convia Chung Sin et Luo Ji à boire le thé. Elle expliqua qu'il n'y avait rien d'autre derrière cette invitation que la volonté de se retrouver entre amis pour parler du bon vieux temps. Les Nations Unies comme les flottes internationales attachèrent une importance considérable à cette rencontre, car l'attentisme qui s'était emparé des populations de la Terre faisait peser sur le monde de terribles dangers. La société humaine était un fragile château de sable construit au bord de la mer qui menaçait de s'effondrer au premier coup de vent. Les responsables politiques des 2 entités espéraient des 2 anciens porte-épées qu'ils puissent rapporter de cette entrevue avec Intellectra des informations propres à rassurer les foules. Au cours de la session d'urgence convoquée par le Comité de défense planétaire pour planifier cette rencontre, certains proposèrent même qu'en l'absence de messages convenables, il pourrait être nécessaire d'en fabriquer un de toutes pièces. 6 ans auparavant, après l'activation de la diffusion cosmique, Intellectra s'était retirée de la scène publique, et si elle se manifestait encore quelquefois, elle se contentait d'être un simple porte-voix inexpressif de la civilisation trisolarienne. Elle demeurait le reste du temps cloîtrée dans sa maison suspendue en bambou, sans doute la plupart du temps en mode veille. Chung Sin retrouva Luo Ji sur la branche où était bâtie la demeure d'Intellectra. Pendant la grande migration, Luo Ji avait rejoint les rangs du mouvement de résistance terrienne. Il n'avait pris part à aucune action armée et n'avait dirigé aucune opération, mais il avait été un guide spirituel pour tous les guerriers entrés en résistance. Les forces de sécurité et les gouttelettes l'avaient traqué sans relâche pour l'éliminer, mais il était par miracle parvenu à leur échapper. Même les intellectrons s'étaient révélés incapables de retrouver sa trace. Aux yeux de Chung Sin, il était toujours le même, grave et vigoureux. Par ailleurs, outre sa barbe voletant dans le vent qui avait encore blanchi, les 7 années passées depuis leur dernière rencontre ne semblaient avoir eu aucune prise sur lui. Il ne parla pas à Chung Sin, mais le sourire de respect qu'il lui adressa lui réchauffa le cœur. Luo Ji lui rappelait Kupar. C'étaient 2 hommes très différents, mais ils paraissaient tous deux avoir emporté quelque chose de l'air commune, quelque chose de la force d'une montagne, sur laquelle Chung Sin sentait pouvoir prendre appui dans ce nouvel âge étrange. La même impression se dégageait de Wade, cet homme également originaire de l'air commune, aussi sournois qu'un loup et qui avait manqué de la tuer. Elle le détestait autant qu'elle le craignait, mais elle avait le sentiment étrange que lui aussi était une branche à laquelle se raccrocher. Intellectra les accueillit devant le perron. Elle était à nouveau vêtue de son splendide kimono et portait des fleurs fraîches accrochées à son chignon. La ninja en treillis n'était plus. Elle était redevenue cette source d'eau limpide jaillissant au milieu d'un bosquet fleuri. « Soyez les bienvenus. Je vous prie de m'excuser, Il aurait été plus courtois que je vous rende moi-même visite, mais je n'aurais pu dans ce cas exécuter pour vous la cérémonie du thé. Je suis ravi de vous revoir. » Un tel Lectra s'inclina. Sa voix était aussi suave que lors de leur toute première rencontre. Elle invita ses deux hôtes à la suivre. Ils longèrent le bosquet de bambou de la cour, traversèrent le petit pont de bois surplombant le ruisseau et entrèrent dans le salon aux allures de grand pavillon. Puis, tous trois s'assirent sur le tatami et un tel Lectra commença la cérémonie du thé. Les minutes s'égrenèrent en silence, au rythme des volutes de nuages qui traversaient le ciel bleu derrière la fenêtre. En observant les gestes gracieux et aériens d'un tel Lectra, Cheng Xin fut tiraillé par des sentiments contradictoires. Oui, ils avaient bien des fois failli réussir, mais le hasard, la ténacité et la ruse des humains avaient chaque fois fini par l'emporter. Leur voyage long de 3 siècles s'était terminé par la vision ultime de leur planète mère engloutie dans un océan de flammes. Un tel Lectra avait appris la destruction du monde trisolarien depuis 4 ans déjà. 3 jours plus tôt, lorsque le message lumineux de cette explosion était parvenu à la Terre, elle avait prononcé un bref discours à destination de la communauté internationale, se contentant d'un exposé général précisant le processus de la destruction. Quant à sa cause, la diffusion par le gravité d'ondes gravitationnelles dans l'univers, elle n'avait adressé ni commentaires ni reproches. Les hommes avaient de bonnes raisons de croire que ceux qui contrôlaient cet androïde 4 ans plus tôt avaient péri dans les flammes, et que ses nouveaux maîtres se trouvaient à bord des vaisseaux de la flotte trisolarienne. Pendant son discours, l'expression et la voix d'un tel Lectra avaient été sereines. Ce n'était pas la sérénité mécanique d'un simple porte-voix, mais bien la manifestation réelle de l'âme et de l'esprit de ses maîtres, l'incarnation d'une noblesse et d'une dignité dont l'humanité aurait été incapable devant une telle apocalypse. Et les hommes éprouvaient aujourd'hui un respect inédit à l'égard de cette civilisation orpheline du monde qui lui avait donné naissance. Grâce aux informations limitées fournies par un Lectra et aux données d'observations humaines, on pouvait grossièrement redessiner la scène de l'anéantissement de Trisolaris. Au moment de la catastrophe, la planète se trouvait en situation d'air régulière, tournant autour d'une des 3 étoiles de son système, à une orbite d'un rayon d'environ 0,6 unités astronomiques. La collision de la particule de lumière provoqua une énorme fissure dans la photosphère et la zone de convection, créant un trou d'un diamètre d'environ 50 000 km dans lequel auraient pu être juxtaposées côte à côte 4 planètes Terre. Hasard ou volonté de l'assaillant, on l'ignorait, mais toujours est-il que le point d'impact de la particule de lumière se situa précisément au niveau du plan de l'écliptique. Depuis Trisolaris, on vit se dessiner une grande tache d'une luminosité inouïe à la surface du Soleil, telle la porte immense d'une forge. De puissants rayonnements jaillirent depuis le noyau de l'étoile à travers la fissure. Ils perforèrent la photosphère, la zone de convection et la chromosphère pour venir se déverser directement sur la planète. Sur l'hémisphère à nu sous cette facule, toutes les créatures vivantes se trouvant à l'extérieur furent consumées en quelques secondes. Puis de la matière provenant du cœur du Soleil fut expulsée de la fissure, formant un geyser de feu long de 50 000 km. La température de la matière solaire éjectée atteignit plusieurs dizaines de millions de degrés, et tandis qu'une partie retombait à la surface de l'étoile sous l'effet de la gravité, une autre gagna la vitesse de libération et fonça droit dans l'espace. Depuis la planète, on eut l'impression qu'un arbre de flammes étincelant avait poussé sur le Soleil. Environ 4 heures plus tard, la matière expulsée avait parcouru 0,6 unités astronomiques, et la crête de cet arbre enflammé rencontra l'orbite de la planète. Après encore 2 heures, la planète en rotation entra en contact avec la cime, et ce cordon de matière orbita à son tour pendant 30 minutes, après quoi la planète parut faire sa révolution à l'intérieur même du Soleil. Bien que refroidie par l'espace, la matière solaire expulsée conservait une température de plusieurs dizaines de milliers de degrés. et quand la planète se fut enfin dégagée de ce cordon solaire, elle n'était déjà plus qu'un corps céleste à l'éclat rouge sombre et à la surface brûlée, couverte d'un océan de lave. La planète tirait derrière elle une traînée blanche, la vapeur des océans entrait en ébullition. La traînée fut chassée par les vents solaires, et la planète devint une comète à la longue chevelure blanche. À ce moment précis, il ne restait plus aucun être vivant à la surface de Trisolaris. Ce monde avait été anéanti, mais la mèche de la catastrophe venait tout juste d'être allumée. La matière éjectée provoqua une traînée s'opposant au mouvement de la planète. La vitesse de celle-ci diminuait à chaque traversée du cordon de matière, qui abaissait en même temps son orbite vers l'étoile. L'arbre de flamme agissait comme une griffe démoniaque, n'ayant de cesse de tirer la planète à elle. Après seulement une dizaine de traversées du cordon de matière, la planète sombra dans l'étoile et ainsi fut sifflée la fin du long match de rugby cosmique du système trisolarien. Mais ce soleil ne vécut pas assez longtemps pour recevoir la coupe du vainqueur. En raison de l'éjection de matière, la pression interne du soleil baissa et les réactions de fusion à l'intérieur de l'étoile se mirent à faiblir. Le soleil continua à s'assombrir et n'apparut bientôt plus que sous la forme de contours flous, rendant plus étincelant l'arbre de feu qui jaillissait de sa surface. Une rayure avait été faite sur la pellicule noire de l'univers. Avec l'affaiblissement de la fusion, les radiations du noyau solaire n'exerçaient plus une pression suffisante pour maintenir la couronne du soleil, qui commença à s'effondrer. Enfin, la couche externe du soleil, qui s'était déjà obscurcie, sombra dans le noyau dans une ultime et terrible explosion. C'était cette dernière scène dont les humains avaient été témoins sur Terre 3 jours plus tôt. L'explosion de l'étoile anéantit l'intégralité des artefacts trisolariens. La plupart des vaisseaux en train de s'échapper du système, de même que les cités spatiales, partirent en fumée. Seuls quelques rares appareils, se trouvant par chance derrière les autres soleils qui leur servaient de boucliers, réussirent à s'enfuir. Plus tard, les deux soleils restants formeraient un système à 2 étoiles relativement stable. Mais aucune espèce vivante ne jouirait jamais de ces aubes et de ces crépuscules enfin devenus réguliers. La matière de l'étoile anéantie et les fragments de la planète Trisolaris façonneraient 2 vastes disques d'accrétion autour des soleils, pareils à 2 gigantesques tombeaux gris. « Combien ont pu fuir ?» demanda Cheng Xin d'une voix douce. « En comptant les passagers des flottes qui se trouvaient déjà loin de notre système, un peu moins 1/1000 de la population. » La voix d'un tel Electra fut encore plus douce que celle de Cheng Xin. Elle était concentrée sur le rituel et ne leva même pas la tête. Cheng Xin aurait voulu dire bien plus. Elle aurait voulu échanger de femme à femme, mais elle était membre de la race humaine et le fossé qui la séparait à cet instant d'un tel Electra était infranchissable. Elle ne formula donc pas à haute voix les pensées qui se précipitaient dans son esprit, se bornant à lui poser les questions qui lui avaient été dictées en haut lieu. La conversation qui suivit fut désignée sous le nom de « conversation de la cérémonie du thé », et elle bouleversa profondément le cours de l'histoire. « Combien de temps nous reste-t-il ? » demanda Cheng Xin. « Nous ne pouvons en être sûrs. L'attaque pourrait intervenir à tout moment, mais selon les probabilités, je dirais que vous disposez encore d'un certain temps, peut-être 1 ou 2 siècles, plus ou moins comme lors de votre expérience contre le système 187J3X1, » répondit-elle en lançant un regard à Luoji. Ce dernier était assis, l'air grave et impassible, toujours aussi muet. « Mais la situation de Trisolaris est différente de celle du système solaire. » Tout d'abord, ce sont les coordonnées de Trisolaris qui ont été dévoilées lors de la diffusion. Pour prendre connaissance de l'existence de la Terre par l'intermédiaire de cette transmission, il faut que l'agresseur découvre les communications ayant eu lieu entre nos 2 mondes il y a 3 siècles. Cela arrivera, c'est une certitude, mais il y a peu de chances que cette découverte et la décision de lancer l'attaque soient aussi rapides. Cela prendra du temps. Et il y a enfin un aspect beaucoup plus important. Observé depuis une certaine distance, le système trisolarien paraît bien plus dangereux que le système solaire. Cheng Xin, surprise, regarda Luoji, mais ce dernier n'eut aucune réaction. Il était toujours aussi silencieux. Ce fut elle qui demanda. « Pourquoi ?» Intellectra secoua la tête avec détermination. « Nous ne pourrons jamais vous le dire. » Cheng Xin réaiguilla la conversation sur les questions planifiées à l'avance. « Cela fait déjà deux fois que nous sommes témoins de la destruction d'une étoile par une particule de lumière. Cette méthode d'attaque est-elle universellement répandue? Est-ce ainsi que se déroulera l'offensive future contre le système solaire ?» Les attaques de la forêt sombre ont deux particularités communes. Premièrement, elles sont arbitraires et deuxièmement, elles sont économiques. Pouvez-vous préciser ces deux idées? Ces attaques ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une guerre interstellaire telle qu'on pourrait l'imaginer. Elles ont pour seul objectif d'éliminer une menace potentielle. Ce que nous entendons par arbitraire, c'est que la simple diffusion de coordonnées suffit à servir de prétexte à l'attaque. Aucune exploration directe, de près ou de loin, n'est menée auprès de la cible. L'agresseur se contente de lancer un assaut préventif, car pour les super-civilisations, une exploration est plus coûteuse qu'une attaque. Quant à ce que nous entendons par économique, il s'agit de l'idée selon laquelle l'attaque doit être la plus simple et la moins onéreuse possible. Le plus petit et le plus insignifiant projectile est utilisé pour libérer la puissance destructrice déjà présente dans le système visé. L'énergie des étoiles ? Intellectra hocha la tête. C'est ce que nous avons pu observer jusqu'ici. Y a-t-il des moyens de se défendre ? Intellectra sourit et secoua la tête. Elle répondit sur un ton pédagogue, comme si elle faisait la leçon à un enfant immature. Tout l'univers est plongé dans l'obscurité, mais nous sommes en pleine lumière. Nous sommes des oiseaux perchés en haut d'une branche de cette forêt, illuminés par l'éclat d'un projecteur. Les coups de feu des chasseurs peuvent venir de n'importe où. D'après notre observation des deux attaques, il semble néanmoins qu'une défense passive soit possible. Certains des vaisseaux du monde trisolarien ont malgré tout pu en réchapper. Croyez-moi, l'humanité n'a aucune chance de survivre à cette attaque. Vous feriez tout aussi bien de fuir. Une évasion dans l'espace ne nous permettra même pas de sauver un millième d'entre nous. Cela vaudra toujours mieux que de ne sauver personne. Pas pour nous, pas pour nos valeurs, pensa Cheng Xin, mais elle le garda pour elle. « Mais ne parlons plus de ça. Ne posez plus de questions, voulez-vous? Je vous ai dit tout ce que j'étais autorisé à vous dire. Je vous invite à présent à déguster le thé, » déclara Intellectra. Puis après s'être inclinée, elle leur tendit deux bols de thé vert. Il restait encore de nombreuses questions sur la liste qui avait été préparée pour Cheng Xin, et c'est avec une certaine tension qu'elle saisit le bol qui lui était tendu. Elle savait qu'il ne lui servirait plus à rien d'interroger Intellectra. Luoji, qui n'avait rien dit jusqu'ici, était resté très tranquille. Il paraissait plus expert en matière de cérémonie du thé. Il saisit son bol de la main gauche et le fit tourner trois fois dans sa main droite avant de le porter à ses lèvres. Il avala lentement, laissant le temps passer en silence, ne finissant son bol que lorsque les nuages derrière la fenêtre se furent teintés de la couleur dorée du crépuscule. Il reposa alors délicatement son bol vide et prononça ses premiers mots. « Puis-je à mon tour vous interroger ?» Le respect qu'imposait la personne de Luoji était manifeste, à en juger par l'attitude corporelle d'Intellectra. Cheng Xin l'avait remarqué depuis le début de la rencontre. Son attitude envers Luoji différait de la douceur et de l'amabilité dont Intellectra faisait preuve à son égard. Luoji lui inspirait une crainte évidente. Dès qu'elle lui faisait face, cette crainte transpirait de son regard, sans qu'elle ne puisse rien faire pour l'en empêcher. Elle gardait toujours davantage de distance avec Luo Ji qu'avec Cheng Xin et s'inclinait plus lentement et plus profondément devant lui que devant elle. En entendant cette phrase, Intellectra s'inclina une nouvelle fois. « Veuillez attendre un instant, » dit-elle. Puis elle s'assit en tailleur et ferma les yeux comme si elle entrait en méditation. Cheng Xin savait qu'à des années-lumière de là, sur un vaisseau de la flotte trisolarienne, les maîtres d'Intellectra étaient lancés dans un débat enflammé. Après environ 2 minutes, elle releva la tête et lâcha. « Vous ne pouvez me poser qu'une seule question, à laquelle je ne pourrai répondre que par oui, non ou je ne sais pas. » Luo Ji reposa une nouvelle fois son bol, mais Intellectra s'empressa d'ajouter avant qu'il ne prenne la parole. « Par respect de notre monde pour le vôtre, la réponse que je vous donnerai sera vraie, même si celle-ci doit causer du tort à Trisolaris. Vous n'avez en revanche le droit qu'à une question et une seule, et je ne pourrai vous fournir que l'une des 3 réponses. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir. » Cheng Xin observa Luo Ji avec anxiété, mais ce dernier ne semblait pas vouloir prendre le temps de la réflexion. Il lâcha sur un ton résolu. « J'ai déjà réfléchi. Voici quelle est ma question. Si, comme vous l'avez dit, observé depuis une certaine distance, le système trisolarien présente des signes de danger, il existe sans doute des signes qui permettraient au contraire d'indiquer à l'univers qu'une civilisation est inoffensive. Une sorte de déclaration de sécurité, comme on pourrait l'appeler, qui permettrait d'échapper à une attaque de la forêt sombre. La civilisation terrienne a-t-elle les moyens de transmettre une telle déclaration au reste de l'univers ? Intellectra hésita longuement avant de donner sa réponse. À nouveau, elle s'immobilisa et baissa les paupières pour méditer. Ce fragment de temps parut durer des siècles à Cheng Xin. Chaque seconde qui passait, ses espoirs s'épuisaient un peu plus. Elle était presque convaincue que la réponse donnée serait « non » ou « je ne sais pas ». Mais Intellectra fixa soudain Luo Ji avec un regard vif qu'elle n'avait jamais osé jusqu'ici porter sur lui. Un seul mot sortit de sa bouche, sur un ton fracassant. « Oui. »«
Comment ?»
ne put s'empêcher de crier Cheng Xin. Intellectra détourna son regard de Luo Ji. Elle secoua la tête et les resservit lentement de thé.
« Je ne peux plus rien vous dire désormais, vraiment plus rien, jamais plus. »
La conversation de la cérémonie du thé avait déposé un minuscule grain d'espoir dans les innombrables mains désespérément tendues de l'humanité. Il était possible d'envoyer à l'univers une déclaration de sécurité qui lui permettrait d'échapper à une attaque de la forêt sombre.